Film et moi, l'émission cinéma mensuelle de Nathalie Islaël. Je suis ravie de vous retrouver en ces jours de printemps qui s'étirent pour un nouveau Film et moi. Nous parlerons d'un film coup de cœur, de l'actualité locale du cinéma sous toutes ses formes et nous parlerons de son travail de réalisatrice avec notre invitée Ingrid Chikawi. Elle nous présentera quelques films de son choix, son parcours dans le monde du cinéma et son travail passé et en cours. Ingrid, je suis ravie de t'accueillir dans Film et moi. Bienvenue.
Merci beaucoup.
Bienvenue à toi. Alors, commençons par un film que j'ai mis dans mon petit panier coup de cœur et je vous propose de l'explorer après ça.
Tu veux que je te montre aussi je connais le texte? On peut tout te montrer qu'on connaît le texte.
On arrête tout. Vous êtes un menteur.
On a fait un truc de fou. Elle nous a vu, elle nous a remarqué.
Ce genre de metteur en scène, c'est des ouf.
Je sais qu'elle aime ça, je le sens, tu vois.
J'ai 27 ans, j'ai dû bosser dans 12 cafés et... Ah oui, zéro film, zéro pièce de théâtre.
J'ai toujours voulu être une star.
I wanna be a star.
Ah, mood star.
Il faut plus d'énergie.
Je vais voir New York, je vais voir l'amour, là.
Vous faites de l'acteur studio dans le petit théâtre, les Américaines.
Moi, je bosse à la française.
Qu'est-ce qui se passe?
Arrête.
C'est quoi ça? C'est quoi?
Qu'est-ce que tu me fais depuis tout à l'heure?
Règle tes comptes ici!
J'y arrive plus! Voilà, c'est fini, j'y arrive pas!
C'est quand je pense que tu m'as caché ça.
Pleure pas, sinon moi aussi je vais pleurer.
Pardon, je voulais pas te faire peur.
Je te lâche pas. Je suis là. Et regardez ce que vous êtes devenues aujourd'hui. Des femmes fortes. Une sacrée meute d'Amazon, hein?
Une fois n'est pas coutume, on sort de l'actualité, on fait un petit pas de côté pour parler d'un film de 2022, un peu passé sous les radars et qui mérite un éclairage spécial. Ce film, on peut le découvrir sur Arte Replay. Arte Replay qui nous permet de découvrir ou de redécouvrir des pépites, parfois restées trop peu de temps dans nos salles. Alors ce film, dont on vient d'entendre la bande-annonce, c'est le film Entre les vagues, de Anaïs Volpé, sélectionnée à la quinzaine des réalisateurs en 2022. Alors en 2016, Anaïs Volpé, elle réalise et autoproduit son premier long-métrage, Ice, Chronique, avec un budget de seulement 3000 euros. Son film obtient le prix du jury au Los Angeles Film Festival et, en prime, participe aux Independent Spirit Awards, la grand-messe américaine du cinéma indé. Entre les vagues, c'est un film de fiction qui raconte une amitié féminine joyeuse. Assez rare au cinéma, où on voit souvent des femmes solitaires, fragiles, chancelées, tombées ou rivales qui se détestent. Les deux héroïnes, elles ont 27 ans. Elles s'accrochent à leur rêve d'ado et à l'énergie de leur jeunesse pour faire face au meilleur comme au pire. Alors il y a Margot, magistralement interprétée par la talentueuse actrice suisse Souleya Yacoub, qu'on a pu voir dans le dernier film de Noémie Merlant, Les femmes au balcon, et dans Dune 2. Et son amie inséparable, c'est Alma, interprétée par la puissante et lumineuse Déborah Lukumwena, vue dans le film Divine de Houda Benyamin, et pour lequel elle a reçu le César de la meilleure actrice pour un second rôle en 2017. On l'a vu aussi en début d'année dans Toute pour une, un remake assez amusant des Trois Mousquetaires au féminin. Alors, l'histoire, Margot et Alma ne se quittent pas. Elles rêvent de devenir comédiennes, elles enchaînent les castings. Alma, elle décroche un rôle dans une pièce mise en scène par une femme, Christine, interprétée par Sveva Alviti. Et Margot, elle est retenue pour être la doublure de Alma. Le film, il se déroule presque entièrement dans le théâtre. Alors nous suivons Alma et Margot dans leurs répétitions. on assiste à la construction d'une pièce de théâtre et plus particulièrement à la construction d'une actrice. Sur scène, on voit des images de New York en noir et blanc qui viennent se superposer aux images qu'on voit à l'écran. Et l'apprentissage de la comédie semble inséparable de l'apprentissage de la vie, comme si l'un ne pouvait pas exister sans l'autre. Répéter, se planter, pleurer et attendre la metteuse en scène qui vous dicte le bon tempo pour recommencer à nouveau et se planter à nouveau, mais en mieux. Alors Margot et Elma, elles peinent à entrer dans le personnage que la metteuse en scène voudrait absolument leur faire jouer. C'est assez facile de voir dans ce trio de femmes une sorte de recréation métaphorique du trio formé par la réalisatrice elle-même, Anaïs Volpé, et ses actrices. Et la mise en abîme, elle fonctionne assez bien. Dans la deuxième partie du film, une révélation tragique vient mettre à mal l'innocence des deux amies et leur répétition au théâtre. Il leur faudra alors faire renaître la joie et la légèreté des premiers instants et trouver la force pour maintenir leur amitié durement mise à l'épreuve. Alors Anaïs Volpé, elle traite du sujet de la maladie avec intelligence, pudeur et grâce. Les larmes, elles sont jamais loin, mais ces larmes, elles ne sont jamais gratuites. Et ce bouillonnement, il est vraiment capté avec sensibilité par la caméra d'Anaïs Volpé, mais aussi magnifié par l'image du chef opérateur Sean Price Williams, qui a été le chef-op de Mad Love in New York et de Good Time. Alors, Entre les vagues, il est à voir sur Arte, en replay ou en DVD. Commençons maintenant l'exploration des choix de mon invité après ça. Change your heart. Look around you. Change your heart, it will astound you. And I need your loving like the sunshine. And everybody's gonna learn sometime. Everybody's gonna learn sometime. Everybody's gonna learn sometime. Tu as reconnu
C'est la bande originale d'Eternal Sunshine of the Spotless Mind, c'est Beck.
Oui,
ça faisait longtemps que je ne l'avais pas écouté.
Oui, c'est vrai, ça t'a fait plaisir.
Ouais.
Everybody's got to learn sometime. Oui, alors c'est un des sons, effectivement, choisi par Michel Gondry pour son film de 2004, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Alors le titre, comme quoi Michel Gondry, c'est pas seulement un adepte de la modernité. Le titre, c'est une citation d'un poème de Alexander Pope, un poète du XVIe siècle, Héloïse et Abélard. Donc ce film, devenu culte, il raconte l'histoire de Clémentine et Joël, incarnés par les splendides et déchirants Jim Carrey et Kate Winslet. Le couple, il fait face à la douleur de la séparation. Et après leur rupture, Clémentine fait confiance à une toute nouvelle technologie pour effacer Joël de sa mémoire. Alors Joël, il décide d'en faire autant, mais il se rétracte au milieu du processus. Au fur et à mesure qu'il redécouvre en fait ses souvenirs et il tente de reconquérir Clémentine. Alors, c'est à la fois l'autopsie d'une liaison et la mise en scène bluffante techniquement d'une mémoire enfouie, avec beaucoup d'effets d'optique qui débordent d'inventivité. Alors, ce n'est pas étonnant de la part de Michel Gondry, esthète du vidéoclip et adepte de trouvailles visuelles. Gondry l'a choisi l'hiver comme saison de leur amour, ce qui donne une sorte de gravité tranquille à l'histoire qui se déroule dans la banlieue de New York, toute grise, et pourtant porteuse d'une douce lumière. Donc Jim Carrey, donc qui incarne le personnage de Joël, il est tout emmitouflé, il déambule dans la neige, et donc il semble vraiment engourdi par la douleur. Et le spectateur, il est entraîné dans la quête improbable de Joël pour retrouver son amour. Et on l'encourage en même temps qu'on le suit, on les encourage à se retrouver. Et on a vraiment envie d'y croire. Alors c'est une vraie beauté scénaristique avec à l'œuvre de l'écriture Charlie Kaufman. Alors Gastine, il est génial. Jim Carrey, tout en retenue, enfin. Vraiment un immense acteur à qui Gondry a offert un rôle dramatique à la hauteur de son talent. Et Kate Winslet, elle nous ravit dans ce rôle tout à sa mesure. Sans oublier Kirsten Dunst et Elijah Wood également. Il a rencontré un succès critique et public, le film. Il a obtenu l'Oscar du meilleur scénario et le British Film Award du meilleur scénario original et le César du meilleur film étranger. Alors Ingrid, mais pourquoi ce choix ?
Je pense que c'est un des films qui m'a fait aimer le cinéma, en fait.
D'accord.
J'étais assez jeune quand je l'ai découvert.
Moi, tu avais quel âge ? Tu te
2004,
souviens ?
2004, j'ai 19 ans.
Ok.
Et je ne suis pas tant touchée par la question de la séparation, de l'amour, etc., qui n'est pas vraiment ce qui... Enfin, qu'il y a quelque chose que je ne connaissais pas, etc. Mais vraiment par cette puissance de pouvoir raconter... des souvenirs, qui est pour le coup quelque chose qui me touche beaucoup, de savoir comment est-ce qu'on va réussir à se souvenir de tout, et ça depuis assez jeune. Et à l'époque, je fais des études d'art plastique, et je comprends là la puissance, en fait, je pense, du médium cinéma.
D'accord. Ouais.
De, à la fois son immersivité, et en fait, de me dire on peut tout faire. On peut tout faire, on peut raconter les choses dans le désordre.
Oui.
Et en fait, je suis devenue un petit peu accro à ce moment en tant que spectateur où on se rend compte qu'on a cru pendant un moment à quelque chose et qu'en fait, ce n'était pas tout à fait ça.
Ouais.
Et comme le personnage, en fait. Et c'est assez... Enfin, je ne sais pas. Et puis en fait, ouais, cette fluidité, cette capacité de... En fait, ça m'a vraiment montré qu'au cinéma, on peut tout se permettre, on peut tout raconter, on peut tout faire, on peut croire à plein de choses bricolées et malgré tout, ça nous permet de mettre en scène des choses très impalpables,
oui.
Comme l'inconscient, il se balade dans ses souvenirs d'enfance,
c'est ça,
et
ouais.
Il est tout d'un coup très grand, mais dans ses habits d'enfant, sous une table géante,
ouais.
Y a, et tout ça Ouais, en fait, je crois que j'ai appris aussi avec ce film la question de la suspension d'incrédulité, c'est-à-dire qu'un film réussi, c'est un film où on rentre dedans et on se laisse porter, on se laisse emmener dans quelque chose qui est pas du tout vraisemblable. Et en même temps, je pense que c'est son film le plus vraisemblable, en tout cas en termes d'effets spéciaux, etc. Après, j'ai vu La Science des rêves qui est encore plus bricolée.
Oui, complètement. Avec carton. Cette machine, là, on la voit en
plus. Oui, voilà, mais c'est en carton,
oui,
et c'est assumé.
Complètement. Ouais.
Mais j'adore le fait que, en fait, quand bien même le décor il est en carton, si l'émotion elle est juste et si le propos il est sincère, on peut croire à tout. Et ça, c'est quelque chose...
Peu importe, finalement. Ouais.
Voilà.
Si on est embarqué.
C'est ça. Et j'ai trouvé ça... je crois que c'est ce film qui m'a fait bifurquer vers le cinéma, en fait.
OK. Donc, vraiment fondateur
de
ton parcours de cinéma. C'est très onirique aussi. Hein. C'est vrai, tu en parlais des
ouais,
rêves.
J'aime vraiment,
dans les rêves. Puis l'idée du temps aussi, il n'y a plus de passé, présent, enfin, ça s'efface, ou du moins c'est traité de la même façon, même niveau.
Ouais, c'est très fort, vraiment très fort sur, sur quelque chose qui est, je pense, hante pas mal d'artistes, en vrai, c'est comment est-ce qu'on représente une émotion, un sentiment, un souvenir, quelque chose qu'on ne peut, qui est difficile à représenter, à expliquer. Et il l'essaye, et en plus, il le fait avec beaucoup de subtilité et de complexité. En fait, j'ai envie de le revoir.
Et tant mieux.
Ouais.
Si ça peut donner l'envie de revoir, hein,
ouais,
c'est ça aussi.
J'ai envie de le voir.
Oui, parce qu'il y aura forcément un nouvel œil posé, une nouvelle lecture. Hein.
Ouais.
À chaque âge de la vie, on a une lecture différente des œuvres, quelles qu'elles soient,
hein,
forcément. Oui. Donc, voyez ou revoyez Eternal Sunshine of the Spotless Mind en DVD, où je pense qu'on peut, le trouver assez facilement. Vous êtes toujours sur Jet FM 91.2. À l'écoute de Film et moi, l'émission mensuelle de cinéma, en compagnie de la réalisatrice Ingrid Chikawi. Continuons à explorer les choix de mon invité avec ça.
اتلف عقلي بليس اشتروا من تشويش ضايق علي صدري ما يهدى وسوسي عن اللي استهل عن اللي ما تعلمت باللقاء صعب كرهن انا حالي زعلان على
Alors Ingrid, est-ce que tu as reconnu ?
Au début, j'ai eu du mal et en fait, en vrai, j'ai pas donné tellement de films arabes que ça.
Oui, c'est ça.
Mais c'est une scène assez folle dans Le temps qui reste de Elia Souleymane.
Oui, tout à fait. Alors ce son, c'est le titre, c'est Marida du duo électro Yass, et on l'entend dans donc ce film du très talentueux réalisateur palestinien Elia Souleymane, Le temps qu'il reste, qui date de 2009 et qui a été sélectionné à Cannes la même année. Donc le film, il s'inscrit dans la continuité des deux précédents films de Elia Souleymane, Chronique d'une disparition et Le génial Intervention divine. Le réalisateur, il vit le conflit israélo-palestinien de par l'histoire de sa famille. Il ne se présente pas comme expert du conflit, mais il a la légitimité de ceux qui sont nés sur ce territoire pour en parler et qui y ont vécu dans leur chair les transformations à marche forcée. Alors dans le film, Le temps qu'il reste, il vient visiter sa mère malade à Nazareth, sa ville natale. Et il évoque en parallèle son histoire familiale. Cette histoire, elle remonte à 1948, l'année de la Nakba, l'exil forcé de 700 000 habitants palestiniens par l'armée israélienne. Les militaires israéliens à l'époque assassinent le grand-père de Elia Souleymane, qui était résistant, et ça se passe pendant l'assaut de Nazareth. Donc, de retour à Nazareth, bien longtemps après, il reconstruit ses souvenirs. Au café, par exemple, il rencontre des amis d'enfance, mais ils n'ont plus grand-chose à se dire. Sa mère malade, elle se réveille la nuit pour manger une glace, alors que le sucre lui est interdit. Mais pourquoi pas, vu le temps qu'il reste. Le soir, les soldats israéliens, ils rappellent aux jeunes palestiniens que le couvre-feu doit être respecté, mais la musique électro de Yass les isole. Et les jeunes soldats, dans leurs camions blindés, se mettent à bouger leurs casques en rythme. Alors la photographie, le sens du cadre et de la lumière, ils sont époustouflants. Alors par exemple, il y a une scène en particulier, en plan fixe, des couloirs d'un hôpital filmé de l'extérieur, où on assiste à une course-poursuite entre des soldats israéliens et des soignants qui poussent un brancard sans parole, sans qu'on voit un seul instant le sang, les blessures, la violence, juste l'absurdité de la situation qui donne envie de rire autant que de pleurer. Donc le récit du réalisateur, il remplace l'historique par l'anecdotique. Donc il nous montre des scènes de la vie quotidienne, des dialogues minimalistes. Et tout est finalement hurlé silencieusement dans ces situations étranges et répétées, comme une forme de comique de répétition mélancolique, avec une atmosphère à la fois tragique et burlesque. Et au centre, toujours, Elia Suleiman lui-même, qui observe de façon assez passive les absurdités de l'histoire et puis du temps qui passe. Donc, espèce de grand dadais burlesque, un mix entre Buster Keaton et Jacques Tati. Donc, c'est très poétique, politique et c'est un cinéma, à mon sens, qui possède énormément de grâce. Alors, c'est en même temps un cinéaste de la mémoire, indispensable, surtout bon, à l'heure où les Palestiniens de Gaza sont enfermés dans une prison à ciel ouvert, affamés, bombardés et à nouveau forcés à l'exil par le gouvernement israélien et son armée, dans une volonté d'effacement aussi et de réécriture de l'histoire par les vainqueurs. Et c'est ça peut-être aussi le pouvoir du cinéma et de l'art, c'est de garder une trace pour que cette histoire ne disparaisse pas. Alors Ingrid, pourquoi ce choix du temps qu'il reste, pardon.
Ouais, c'est un film qui m'a marqué, que j'ai découvert jeune étudiante en cinéma. J'avais repris des études en cinéma après avoir fait des études de photographie, puis avoir travaillé un petit peu. Et avec mon école, donc l'ESSAV à Toulouse, on avait un partenariat avec le Festival de Cannes. On travaillait au Short Film Corner. Et j'ai vu plein de films sur ce fameux festival 2009. C'est une espèce de boulimie de festival. En même temps, on travaillait la journée. Et le soir, on réussissait à gratter des invitations pour aller voir des films. J'ai vu plein de films cette année-là qui m'ont vraiment marqué. Et dont celui-ci, je me souviens très, très fort. C'est une vraie expérience de spectateur. C'est ce moment où il saute à la perche,
oui,
par-dessus,
oui,
le mur
de séparation.
Et la salle entière applaudit dans la salle. Et c'est un moment fou. Et je suis encore aujourd'hui, je ne dirais pas que je suis cinéphile, c'est-à-dire que je passe plus de temps à fabriquer, à travailler sur la fabrication des films que d'aller les voir. Mais je chéris toujours ce que j'ai découvert, en fait, qu'en festival, on peut en voir plein d'un coup,
ouais.
et dans un état de fatigue qui est particulier, et donc on ressent les choses très très fort, on est très nombreux, il y a un enjeu et tout, enfin, ouais. Je sais pas, et ce film il m'a marqué pour ça, ces cadres picturaux fixes,
oui,
avec ce spectateur assumé, ces regards magnifiques, et la musique, c'est toutes des chansons que moi, j'étais à ce moment-là, je voulais travailler sur un film sur un couple franco-tunisien. Et c'était toutes les chansons qu'il a eues dans son film, c'était des chansons que je voulais mettre dans mon film. Et j'étais là,
donc ça résonnait fort.
Sauf celle-ci,
oui,
parce que je ne la connaissais pas. Oui. Mais il y avait Férouz, et c'était cette chanson-là de Férouz.
Oui,
et il y avait cette utilisation de la musique dans des plans très contemplatifs. Et comme tu le disais, absurde. Moi, ce que ce film m'a appris, c'est comment est-ce qu'on peut être poétique et politique,
oui,
au cinéma en même temps,
oui,
en restant très exigeant et sincère, encore une fois. Je pense que c'est ce qui m'a touchée.
Oui.
Magnifique.
Donc, allez voir les films d'Elia Suleiman. Il est vraiment incomparable, vraiment. Continuons à explorer les choix de mon invité, Ingrid Chikaoui. Après ça.
someone love me when I don't know who I am? Love I have inside is too great for me to hide. Understand. But you turn and you look at me, and I don't know what it is, I don't know what it is.
Alors Ingrid, donc t'as eu un petit peu de mal à reconnaître, je vais donner des indices. Années 70, donc le compositeur s'appelle Beau Howard et le morceau s'appelle Woman.
Ah, c'est Cassavetes.
Oui.
Ah.
Ouais. Donc c'est effectivement une des musiques choisies par Cassavetes pour son film Une femme sous influence, qui date de 1974. Alors Beau Howard, c'était un complice de Cassavetes, ils ont même composer des morceaux ensemble. Donc c'est le septième film pour lequel Cassavetes collabore avec sa femme, la splendide, je ne sais même pas comment la qualifier, Gina Rollins. Donc c'est un couple mythique de cinéma. Après les films Faces, Husbands et Minnie et Moskowitz. Alors l'histoire, c'est l'histoire d'un couple, Nick, chef de chantier, et Mabel, femme au foyer, et leurs trois enfants. Donc on suit leur vie sur quelques jours, principalement dans leur maison. Alors ma belle, elle est un peu ma boule. On dirait peut-être aujourd'hui, sans doute, bipolaire. Elle s'ennuie terriblement dans sa vie de femme au foyer. Elle lutte pour se conformer aux normes sociales qu'elle ne comprend pas forcément toujours. Nick, c'est son ange gardien. Il la protège, il l'aime comme elle est. Même si la fin nous laisse entrevoir que l'amour, il peut s'éroder. Il la défend quand même becs et ongles. Et il dit, par exemple, à ses copains, elle n'est pas cinglée. Elle est juste différente. D'ailleurs, elle fait la cuisine, le ménage, la couture, elle s'occupe des enfants. Alors c'est vrai que c'est une vision très très patriarcale, mais c'est daté, hein, c'est les années 70. Dans l'interprétation magistrale de Gina Rollins, elle sublime ce personnage qui devient au fur et à mesure grandiose et fragile. Donc elle essaye d'exister, hein, désespérément. Elle essaye d'être un sujet social au milieu de comportements triviaux qu'elle ne comprend pas vraiment. Et elle lutte aussi contre ses démons intérieurs. Son interprétation, il lui a valu un Golden Globe de la meilleure actrice. Mais elle est vraiment à milieu d'une performance ultra maîtrisée ou surjouée. Donc elle sonne cette interprétation terriblement, terriblement juste. Et il y a Peter Falk aussi, qui joue le rôle donc de Nick, qui est en état de grâce dans ce rôle, le rôle de cet homme qu'il aime maladroitement et qui croit pouvoir contenir la folie de sa femme par la seule force de son amour. Alors il y a une scène bouleversante qui résume cette tentative désespérée. C'est lorsque Mabel est en crise que Nick la prend dans ses bras, la serre dans ses bras en lui disant « Reviens-moi, je t'en supplie ». La technique de Cassavetes, elle est assez révolutionnaire à l'époque. Il utilise la caméra sur l'épaule, qui laisse une grande mobilité aux acteurs et aussi de nombreux plans séquences qui donnent l'impression d'improvisation alors que tout était écrit. Cassavetes, il a dit qu'il voulait filmer le combat d'une femme qui cherche un autre langage pour atteindre les gens qu'il aime et qui l'entourent. Et cette approche résume finalement très bien son cinéma, entièrement tourné vers les gens ordinaires, les gens cassés, mais généreux, ambigus, complexes, finalement les gens qui nous ressemblent, et qui pour lui étaient les plus intéressants, et sur qui il ne portait jamais de regard surplombant. Alors cet amour des autres s'est aussi traduit par sa conception du cinéma comme un art du collectif. Il s'entourait toujours, pratiquement toujours des mêmes acteurs, comme Peter Falk et Ben Gazzara. Il impliquait aussi ses proches, ses amis, sa famille pour produire et aider à la réalisation. Il a fait jouer dans ses films des membres de sa famille, la mère de Gina Rowlands, sa propre mère également. Alors Ingrid, pourquoi ce choix ?
C'est un film que j'ai découvert très tard, assez récemment. Il m'a marqué forcément par... tout ce que tu viens de dire, tu le dis très très bien, ce travail sur la représentation d'une instabilité émotionnelle qui n'est pas du tout dans la performance, très ouais, subtile ouais, et juste, ouais. Et en même temps, on arrive à y croire que c'est une femme qui déborde.
Oui.
Sans qu'elle ait besoin de trop déborder. Il y a un travail sur le rythme qui est... Ouais. Assez époustouflant parce qu'en effet, c'est des plans séquences et pour avoir moi-même monté travaillé sur des moments d'instabilité mentale comme ça dans mon cinéma, je sais que c'est de la dentelle de montage d'essayer de trouver le rythme juste. Et là, je trouve qu'il arrive, et elle surtout, ils arrivent en fait à cette espèce d'arythmie qui est bouleversante, de on ne sait jamais trop oui. comment ça va sursauter, mmh. et c'est pas linéaire, et c'est ça qui est juste, en fait, oui. justement. J'ai trouvé que c'était une vraie leçon de comment est-ce qu'on peut être plus arythmique dans le jeu, et puis après, sur le fond, moi, ça m'a beaucoup, beaucoup touchée, cette façon de vouloir l'aider à ne pas à gommer ses tics, oui. ce rapport qu'il a avec les enfants, tout ça, oui. c'est un thème qui me touche oui. beaucoup, sur lequel je travaille moi aussi, et donc ça m'a beaucoup oui. impressionnée. Oui.
Alors Peter Falk, j'ai vu une interview de Peter Falk et Gina Rowlands, ils expliquent le travail sur ce film, et ils disaient effectivement qu'on avait l'impression que c'était de l'improvisation, alors que pas du tout, et que Cassavetes, il écrivait, alors eux, ils pouvaient proposer des choses, mais c'était vraiment, vraiment écrit. Et Peter Falk, quand ça, c'est étonnant, c'est une interview qui date d'il y a une quinzaine d'années, et il était en admiration encore pour le jeu de Gina Rowlands. Et il lui disait, mais c'est juste incroyable tout ce que tu as réussi à faire, à donner, comment tu es rentrée dans ce personnage. Et voilà, avec une ultra sensibilité qu'elle est allée chercher en elle, qu'elle avait aussi sans doute quelque part. Quand elle bascule, on peut dire, avec ses onomatopées, ces espèces de choses, même les gestes qu'elle donne à voir, c'est vrai que ça se fait, on ne sait pas trop comment, à quel moment, et puis on y croit en fait. Donc c'est vraiment très 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 puissant, je trouve.
Très fort, et en effet, je pense qu'on est loin de la performance. Enfin, je ne sais pas comment dire, il y a quelque chose de pas du tout démonstratif.
Oui, c'est pas, on voit pas la pancarte, attention, ça y est, regardez, je vais jouer le rôle de la femme qui perd pied.
C'est ça.
Alors que certaines réussissent très bien à le faire, mais c'est, à mon sens, assez insupportable parce que c'est trop expliqué au spectateur. Je pense, faut croire en l'intelligence du spectateur pour comprendre.
Ouais, et c'est très difficile à montrer et même à diriger parce que c'est des moments où, en effet, c'est ce que je disais tout à l'heure, le personnage, il déborde. Donc, évidemment qu'il est trop. S'il était mesuré et un peu... en fait, il n'y aurait pas d'histoire.
Bien sûr.
C'était une personne... Ouais. Donc, c'est un fil entre le trop qui raconte un personnage qui déborde et le trop qui raconte... Un comédien qui en fait trop, c'est très très le fil, c'est ténu, hein. Et ça lui laisse la place justement avec ce dispositif de pouvoir s'adapter à ce qu'elle propose de gestuel, de son. Le son est incroyable.
C'est pour ça que je parle de confiance, ça se sent complètement. Vous êtes toujours sur Jet FM 91.2 à l'écoute de Film et moi, l'émission mensuelle de cinéma en compagnie de la réalisatrice Ingrid Chikaoui.
Qui va la tristesse, vous ne m'aurez pas ce soir. J'ai enfin trouvé la sagesse et désormais les pleins pouvoirs. Quelle audace de me faire croire que je ne suis qu'un pauvre pantin manipulé par vos mains dégueulasses de désespoir. Marionnettiste je suis et sûrement pas l'inverse. Les émotions sont des couleurs, je suis le peintre qui les renverse. Et sûrement pas l'inverse. Qui va la tristesse, vous ne m'aurez pas ce soir. J'ai enfin trouvé la sagesse et désormais les pleins pouvoirs. Quelle audace de me faire croire que je ne suis qu'un pauvre pantin manipulé par vos mains dégoulinantes de désespoir. Marionnettiste je suis et sûrement pas l'inverse. Les émotions sont des couleurs, je suis le peintre qui les renverse. Marionnettiste je suis et sûrement pas l'inverse. Qui va là? Qui va là? Qui va là? Ça c'est pas moi. Mais qui va là? Mais qui va là? Qui va là? Tristesse, dégage de là. Marionnettiste et sûrement pas l'inverse. Contrôle total des sentiments. La tristesse me déteste. Marionnettiste je suis et sûrement pas l'inverse. À part mes pulsions de création, je contrôle tout le reste. Je contrôle tout le reste. Il arrive des fois que qu'elle arrive et que j'ai beau tout faire, tout dire pour la faire partir, elle reste là. Et en fin de compte, je me demande même si elle serait pas là un peu tout le temps. Tristesse est là et tristesse.
Marionnette, on est et on le reste. Marionnette. Marionnette, on est et on le reste. Marionnette, on est. Ah, je déteste. Je déteste.
Parlons maintenant avec notre invitée, Ingrid Chikawi, de son travail de cinéaste. Alors, première question, Ingrid, qui t'a donné la force, l'énergie, l'envie de faire du cinéma ? Pas une question évidente. Ah tu t'y attendais pas.
J'ai découvert la photographie au lycée et après
au lycée donc il y avait
au
quoi
au lycée comment, il y avait un club photo.
Ah voilà. Mais c'est moi ça m'intéresse parce que souvent c'est des petits déclencheurs.
Ouais.
À l'école.
Je faisais du théâtre aussi. Voilà.
Bah quand même.
Ouais, je faisais de beaucoup de d'art plastique.
C'est ça.
Ouais, voilà et mais je n'avais pas encore compris ce que c'était que
il y avait une petite
l'art,
graine,
en fait.
Une petite graine qui était semée, là.
Ouais. En fait, j'ai commencé très, très jeune à raconter des histoires à ma petite sœur, qu'elle avait du mal à s'endormir, on partageait la même chambre. Et plus que des histoires, en fait, je lui racontais des sensations, des... Enfin, j'essayais de la... J'inventais un peu la méditation à ma sauce. Et j'essayais de lui raconter
Des sensations. Tu aurais pu devenir gourou. Hein.
C'est Dommage. Ça. Des sensations, des souvenirs. Enfin, il y avait comme ça quelque chose qui m'animait pas mal, qui était comment retranscrire des sensations, des souvenirs, des émotions. Et ça m'a poursuivie après, voilà, jusqu'à ce que je rentre... Voilà, en voyant des films comme celui de Michel Gondry ou d'autres, je me souviens que très jeune, j'ai vu complètement par hasard, en vacances, dans un appartement qu'on nous prêtait, j'ai découvert en VHS Arizona Dream de Kusturica, et c'était... c'était vraiment un truc waouh de moi qui ne connaissais que les Disney ou les Maman, j'ai raté l'avion, etc. De tout d'un coup, en fait, comment est-ce que le film peut être poésie et ce que ça m'a fait, en tout cas, de sensations et d'émotions. Après, j'ai eu envie de me dire comment est-ce qu'on peut retranscrire des choses qu'on a vécues, qu'on a ressenties, etc. Et au début, j'ai cherché dans la photo, puis un petit peu dans les arts plastiques, l'art contemporain, etc.
Oui.
Et ça ne m'intéressait pas trop, finalement. C'est en voyant plus de films, je me suis rendu compte que c'était peut-être par là qu'il fallait y aller.
Donc, tu es partie à Toulouse.
Ouais, j'ai fait une école de cinéma à Toulouse, qui est une école publique qui dépend de l'université.
Ok, qui s'appelle
L'ENSAV. L'ENSAV maintenant.
L'ENSAV, ouais, voilà,
École nationale.
Supérieure des arts visuels, sans doute.
D'audiovisuel.
Ah, de audiovisuel.
Voilà. Et puis, c'est une école qui dépend de l'université, donc qui est un peu remontée à Paris, travailler un peu sur les films à la FEMIS. Après, j'ai fait des stages. Après, j'ai fait une année à New York. Un semestre à New York.
Ouais.
Donc, j'ai fait l'école un petit peu à mi-temps, et c'est pour ça que j'ai surtout découvert des gens avec qui j'avais envie de faire des films, et j'ai surtout essayé de faire des films. Et j'ai fait des films, et ça, j'arrive, je bidouillais des trucs et ça touchait des gens, et voilà. Et en fait, j'ai fait un premier film toute seule, avec moi toute seule à la caméra et ma sœur, et puis le deuxième on était trois, et puis le troisième on était cinq, et puis voilà, de plus en plus à explorer, à tenter des choses, expérimenter, et puis trouver un petit peu ce que j'avais envie de raconter.
Alors, si on revient sur ton parcours professionnel, tu as été assistante de réalisation, tu as été chargée de casting. Chargée de casting, ça consiste en quoi ? Comment on les trouve, les gens ?
Alors,
comment
ça se passe ? C'est toujours mon métier aujourd'hui.
Ouais,
à côté, c'est comme ça que je gagne ma vie, parce qu'en fait, on ne gagne pas sa vie en étant réalisateur, réalisatrice.
Ça dépend qui, mais il y a très peu d'élus qui gagnent vraiment leur vie. Et
il faudrait faire un film par an.
C'est ça.
Ce qui est très, très difficile. Je travaille dans la région, donc je suis basée à Nantes. J'habite à Nantes et... Et en fait, moi, je récupère en gros les projets quand ils arrivent en région. Ils ont déjà généralement leur casting de premier rôle qui est fait sur Paris par des directeurs de casting parisiens. Et moi, je récupère les tout petits rôles, les seconds rôles parfois, petits rôles, silhouettes, figurations. Les castings des premiers rôles, ils se font à Paris parce qu'en fait, il est aussi très lié au financement, aux agences, etc.
Qui sont principalement à Paris, j'imagine.
Les films se montent sur les comédiens et comédiennes, sur leur nom, sur leur capacité à ramener des gens en salle. Le travail de financement, en tout cas des films, se fait à Paris. On caste en région aussi parce que les aides régionales déterminent un montant de dépenses aussi à faire en région. Donc voilà, et on cherche aussi des rôles en région.
À propos des aides de la région, je crois que tu as été impliquée dans la plateforme qui est le pôle cinéma et audiovisuel des Pays de Loire. Donc c'est une structure qui accompagne les actrices de la filière cinéma audiovisuel en Pays de Loire. Elle a permis de faire émerger pas mal d'actrices du cinéma de la région, de proposer des formations. Elle a subi des coupes budgétaires. Cette plateforme, qu'est-ce que tu peux nous dire de son existence ? Est-ce qu'elle est menacée ou pas ? Est-ce que ça a eu des conséquences ?
Je suis toujours coprésidente de la plateforme. On est deux coprésidents, deux vice-présidents, etc. Tous les postes sont doublés parce qu'on est tous, on travaille tous à côté. C'est difficile d'être réactif, voilà. Mais
Il y a combien de salariés ?
Il y en avait trois et maintenant il n'y en a plus que deux. On vient de voir.
D'accord. C'est une conséquence des coupes budgétaires.
Clairement, des coupes budgétaires. On vient de se séparer d'un salarié. À notre grand regret, c'est super dur. Et là, donc, on est en train d'essayer de réfléchir à comment continuer à exister. C'est une association qui est portée par les professionnels de la filière dans la région. Et qui
permettait peut-être de décentraliser aussi, on parlait de Paris tout
clairement,
à l'heure.
Clairement, décentraliser, puis décentraliser aussi à l'échelle régionale, de façon départementale, d'amener le cinéma. Enfin, on avait un programme de diffusion des films des films régionaux dans les départements qui a dû s'arrêter, qui s'appelait la grande tournée. Et puis voilà, il y a de l'accompagnement aux jeunes auteurs qui vient pallier en fait au manque d'aide à l'écriture dans la région. Et voilà, et toutes ces choses-là, elles sont menacées et c'est difficile en fait, parce que comme vous ici, c'est c'est des...
Oui, comme à Jet, donc.
Voilà, comme à Jet, c'est des... En fait, ce sont des initiatives qui portent la vie culturelle, mais qui sont basées uniquement sur du bénévolat, quasiment uniquement sur du bénévolat. Très, très peu de salariés. Mmh. Et donc, la charge sur... la charge sur les salariés, elle est énorme. Et la charge sur les bénévoles, elle est énorme aussi.
Et de plus en plus importante.
Et c'est très, très difficile.
Oui.
De réussir à tout concilier. Mmh. Et à un moment, en fait, on n'arrive pas tous à mettre notre engagement bénévole avec autant de pression, de responsabilité. Mmh. C'est quelque chose qui est impressionnant. Mmh. Et en fait, il y a vraiment un désengagement de l'État qui du coup, laisse les associations prendre en charge toute une partie des choses qu'il ne prend pas lui en charge. Et c'est très difficile quand il y a comme ça des décisions politiques de ne pas défendre, ne pas soutenir la culture.
Espérons malgré tout que la plateforme continue à vivre. On lui souhaite vraiment, vraiment longue vie. Alors parlons maintenant, Ingrid, de tes créations. Donc tu as réalisé plusieurs courts-métrages, des vidéos de danse et de cirque. D'ailleurs, pourquoi cet univers de la danse et du cirque?
En fait, quand j'étais étudiante à l'école en cinéma, il y a un exercice comme ça qui nous met en lien avec je ne sais même plus comment s'appelle cet exercice. Un exercice qui met en lien des étudiants réalisateurs, réalisatrices avec des étudiants du Lido, qui est l'école de cirque de Toulouse.
D'accord.
Et donc, on a un exercice de co-création d'un film où, pour les réalisateurs, réalisatrices, c'est le moment d'expérimenter la direction d'acteurs avec des acteurs qui sont physiques, c'est-à-dire qui savent raconter avec leur corps.
D'accord.
Des choses, sans être obligé de les dire. C'est assez passionnant. Et pour les circassiens, circassiennes, c'est l'expérience du cadre, du montage, du découpage, de ce qu'on montre, de pouvoir faire un gros plan, chose qu'on ne peut pas forcément faire sur scène.
Mm-hmm.
Et donc, on a comme ça un petit exercice. Et comme ça, j'ai rencontré pas mal de circassiens, circassiennes. Et j'ai donc, évidemment, eux, ils ont besoin de vidéos pour défendre leur travail. Ouais. J'ai commencé comme ça à faire des vidéos avec eux.
Alors, ton dernier court-métrage de fiction s'appelle « Trois gros grains de sel ». Et il a emporté une vingtaine de prix, dont une mention spéciale au Festival de Clermont-Ferrand, il me semble, en 2022. Alors, moi, en le regardant, j'ai compris ton choix du film de Cazavette, Une femme sous influence. Parce que, en fait, c'est aussi le portrait d'une femme, un peu au bord de la folie, interprétée par la puissante et fragile Manu Fletou.
C'est marrant, tu disais tout à l'heure, qui est-ce qui t'a donné envie de faire du cinéma? Je crois que Manu fait partie de ces gens.
D'accord.
C'est-à-dire que quand je passais le concours pour rentrer à l'école de cinéma, j'ai rencontré Manu, qui passait le concours en même temps que moi. Elle avait le crâne rasé, elle avait une présence incroyable. Et je me suis dit, oh, il faut absolument que je réussisse ce concours pour pouvoir filmer cette fille.
Okay.
Parce que j'étais persuadée allait la voir. Donc ça, c'était un déclic aussi.
Elle était comédienne?
Non, moi je l'ai un peu poussée,
d'accord,
elle ne l'était pas vraiment, non.
Ouais, ouais.
Et maintenant, elle est réalisatrice aussi, elle a fait l'école avec moi.
Dans ton court-métrage, ce qui est intéressant, c'est que le point de vue, c'est celui de ses filles, de ses deux petites filles. Hein. Donc, encore une fois, il n'y a pas de jugement, en fait, hein, sur leur mère. Hein. Est-ce que, comment elles vivent, alors, sauf à des moments où elles sont peut-être un peu en danger. Mais sinon, parce qu'il y a le jeu, il y a le côté enfantin de la maman, une complicité dans le jeu. Alors, d'où t'est venue l'idée de ce film?
Il m'est venu de se souvenir de la fois où j'ai fait croire à ma sœur qu'elle allait mourir pendant une journée entière parce qu'elle avait mangé 3 grains de gros sel.
Okay.
C'est arrivé en fait aussi quand j'ai eu des enfants, en fait, et que je me suis souvenue... Enfin, c'est en ayant des enfants que je me suis posé la question de quel enfant j'avais été, quel parent j'avais eu, quel parent j'allais être. En fait, on a grandi avec un parent très instable psychologiquement. Et en fait, j'ai compris que j'avais un film quand je me suis souvenue que... Enfin, je voulais raconter cette histoire de lui avoir fait croire à la mort.
Oui.
Et en fait, il y a vraiment eu un jour où on a failli mourir.
Okay.
Et donc... C'est là où je me suis dit, je tiens mm-hmm. un film. Beaucoup des sentiments ambivalents dans une famille que j'ai retrouvé en ayant des enfants, en fait. Comment à la fois on peut adorer sa petite sœur et en même temps souhaiter qu'elle meure.
C'est ça.
Et comment nos enfants sont nos trésors et en même temps on peut rêver de notre vie sans eux.
Ouais.
Ce cercle-là des sentiments ambivalents dans une famille que j'avais envie d'explorer, de comment c'est des vases communicants et puis comment... quand quelqu'un flanche, quelqu'un d'autre...
prend le relais.
Exactement.
Ouais, la grand-mère, en l'occurrence. Ouais, c'est vraiment très, très touchant. Enfin, ce film, il m'a vraiment... Bravo. Il m'a vraiment touchée. Et c'est facile de tourner avec des enfants, Pascal. Je les ai trouvés formidables aussi.
Bah, c'était la première fois pour moi. C'était assez passionnant. Et je n'avais pas vraiment repéré ce truc que, par exemple, les enfants détestent refaire deux fois la même chose. Ça n'existe pas pour les enfants de refaire deux fois la même chose. C'est seulement à l'école et c'est quand on s'est trompé qu'on doit refaire.
Ouais.
Et donc de devoir comprendre que, alors qu'au cinéma, mais on ne fait que ça. On fait trois prises avec la caméra ici, tu dis la même chose que trois prises avec la caméra ici, et tu dis là la même chose avec trois prises avec la caméra ici. Donc ça, je leur ai expliqué. C'est ça les règles au cinéma, on va refaire. Et puis, c'est pas parce que t'as mal fait, c'est parce que, regarde, on est 8 personnes autour de toi et les 8 doivent faire leur travail parfaitement en même temps. Donc, c'est pas forcément toi, si tu dois refaire, c'est peut-être le son, le point, c'est flou, il y a du bruit dehors. Voilà. Elle connaissait beaucoup trop le texte.
Ouais.
Elle s'était mise la pression.
Oui, c'est ça. Il ne fallait pas qu'elle récite comme une poésie.
C'est ça.
Quoi.
Donc, il a fallu déconstruire le texte. Et ça voulait dire, à chaque prise, amener une petite, un petit changement, une contrainte différente. Parfois, des choses que je savais que je ne pouvais pas monter, mais qui m'amenaient à les garder dans le jeu. Et parce que, par contre, les enfants, ils adorent improviser. Et puis, ils improvisent dans l'histoire.
C'est du jeu, ils jouent.
Ils savent très bien. Ouais, voilà.
Ils adorent jouer, normal.
Tant qu'on ne les fait pas réciter tout à l'heure.
C'est ça, oui. Alors, tes projets en cours ou à venir?
Ça fait 2 ans et demi que je suis en écriture. Enfin, 2 ans et demi, 3 ans maintenant, même plus. Je suis en écriture d'un long métrage qui était parti en financement et puis qui retourne un petit peu en réécriture pour pouvoir s'adapter au refus, aux aléas du financement du film.
Mm-hmm.
C'est un film qui n'est pas facile à financer parce que, comme le court métrage, il est aussi avec des personnages principaux qui ont 10 ans. Donc c'est difficile parce que, par définition, ça ne peut pas être des stars. Donc, donc ça ne peut pas financer un film.
Ouais.
Voilà, mais bon, c'est assez lié avec le thème du court-métrage. Ah. C'est un petit peu sur, pas vraiment la suite, mais en tout cas, comment est-ce qu'une famille voit ses liens...
Donc c'est un peu une prolongation.
Perturbée par ce genre d'événements. Ouais. De comment est-ce que la maladie psychiatrique peut... influer.
Donc, tu continues à creuser ce sillon-là.
Un petit peu, ouais.
Ok. Écoute, bon courage pour la suite. Et puis,
merci.
On espère le voir, puis que tu reviennes pour nous en parler dans
plaisir.
Film et moi.
J'aimerais beaucoup le faire.
Nous aussi, nous aussi. Vous êtes toujours sur Jet FM 91.2 à l'écoute de Film et moi, l'émission mensuelle sur et pour le cinéma.
Pour l'envie que l'on a de guider ses pas, pour garder ses émois, écouter son cœur qui bat, pour savoir regarder un ciel étoilé, tendre les mains à son destin, vouloir plus fort encore. Se retourner, ne pas regretter, penser à demain recommencer.
en juin, on se délecte de sorties et on continue à faire vivre nos salles préférées locales qui nous proposent encore de riches programmations, événements en tout genre dont j'ai fait une petite sélection. Au cinéma 14A de Nantes, vous pourrez voir le film qui a fait l'ouverture de la 78e édition du Festival de Cannes, Partir un jour, avec Juliette Armanet dans son premier rôle au cinéma en tant que comédienne et Bastien Bouillon. Film d'Amélie Bonin qui a adapté un court-métrage en gardant la même intrigue et les mêmes acteurs. Un film qui promet d'être joyeux, tendre, chantant et qui promet de faire des étincelles. Et ce qu'on dit avec Ingrid, c'est que ce titre risque d'être aussi le tube de l'été. Partir.
Ah, mais il y en aura d'autres.
Oui, c'est clair.
Ouais. En fait, nos producteurs sont dans les mêmes locaux ouais. avec Amélie. Et à chaque fois que moi j'allais en rendez-vous là-bas, je croisais les compositeurs, etc., qui étaient en train de travailler. Et il y en aura d'autres.
Il y en aura d'autres.
Là, je pense que cette bande originale va faire des heureux.
Tant mieux. Tant mieux, ça fait du bien. Mm-hmm. Donc, allez le voir au 14A. Toujours au 14A, vous pourrez voir aussi le dernier film des frères Dardenne, Jeune mère, en compétition à Cannes cette année, ainsi que le dernier Wes Anderson, The Phoenician Scheme, avec l'hallucinant et halluciné Benicio del Toro dans le rôle d'un des hommes les plus riches d'Europe. Le 18 juin, ne manquez pas l'appel de Kneecap, un groupe irlandais, trio de Belfast, suivi par le réalisateur Rich Pepiat. Alors c'est un groupe qui est devenu une figure de proue d'un mouvement des droits civiques de défense de leur langue. Il a eu le prix du public au festival de Sundance et il a été choisi pour représenter l'Irlande aux Oscars. C'est un film se promet d'être d'une folle énergie et c'est aussi le portrait d'une jeunesse vraiment porteur d'espoir, d'une jeunesse engagée et très très combative. Il se passe toujours des choses passionnante au cinéma Saint-Paul de Rezé. Le mardi 3 juin, ne manquez pas la soirée débat autour du génial film From Ground Zero de Rachid Macharaoui et en sa présence. Le film est composé de 22 histoires courtes d'habitants de Gaza pour rendre visible leur fertilité créative et pour que les histoires maintiennent en vie un peuple dont la destruction se poursuit à l'heure où je vous parle. Et quelle bonne idée a eu le cinéma Saint-Paul à Rezé de fêter les 50 ans du cultissime Sacré Graal des Monty Python. Alors, il y a des gags absurdes et des noix de coco. Donc les Monty Python, ils ont réinventé la légende arthurienne dans ce film avec un génie comique assez inégalé. Et pour rendre hommage à ce génie comique, vous pourrez même venir déguisé ou avec une noix de coco le samedi 28 juin au cinéma Saint-Paul. Et plein d'autres riches programmations divertissantes, émouvantes, éprouvantes, éclairantes, résistantes, que vous pouvez retrouver sur les sites de vos cinémas préférés partout dans le département. Merci beaucoup Ingrid d'avoir passé ce moment en notre compagnie.
Avec grand plaisir.
Et bonne continuation pour Merci. Ton passionnant et passionné travail de cinéaste que tu fais au plus près de l'humain. Et on attend avec impatience le prochain film. On suivra ça de près. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau Film et moi.
C'était Film et moi, l'émission cinéma mensuelle sur Jet 91.2. Retrouvez-nous aussi en podcast sur le site de Jet, jetfm.fr.